Phare FM, aux portes du Dauphiné, 107.
L'invité. Depuis début 2017, des élèves du collège Paul Éluard à Vénissieux sont devenus médiateurs dans leur établissement. Leur rôle, c'est de limiter les conflits violents entre les élèves ou avec les professeurs. Nous avons souhaité parler davantage de cette pratique de la médiation avec Bruno Végelin. Il est responsable d'un cabinet de médiation à Lyon, président du collectif national de médiateurs Tierce Média. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez été partie prenante de ce projet à Vénissieux, au collège Éluard. Comment ça s'est passé ?
Alors, bah écoutez, en fait, ça a été une initiative développée depuis quelques mois par ce collège, par monsieur Jean-Marc Ségoun, de fonder et d'initier les élèves à la médiation. Alors, on les a appelés le Club des ambassadeurs de la paix. C'est une jolie démarche pour un projet qui me semble tout à fait moderne pour un collège de ce type, qui a permis de limiter significativement les petites incivilités et surtout aussi de responsabiliser les élèves.
Comment est-ce que vous avez été intégré à ce processus ? Quel a été votre rôle finalement ?
Alors, monsieur Ségoun m'a contacté, tout simplement, hein, parce que il avait vu mon engagement dans ce domaine, que ce soit peut-être dans d'autres médias ou pas sur Internet. Et j'ai tout de suite saisi cette occasion, justement, de développer d'une manière autre la médiation, que je trouve très intéressant. Et oui, très intéressant.
Alors avant d'aller un peu plus loin, est-ce qu'on peut déjà rappeler concrètement ce qu'est la médiation ?
Le médiateur donc, qui fait la médiation, c'est un professionnel des mécanismes relationnels et aussi de la qualité relationnelle. Concrètement, il permet de résoudre les conflits via un processus et une méthode très précise. Dans le cadre aussi professionnel, il permet de conseiller efficacement le dirigeant et le responsable des ressources humaines pour conserver tout d'abord un bon climat relationnel en entreprise. Ensuite, anticiper une partie de la souffrance au travail et ensuite aussi développer la motivation de son entreprise.
Et finalement, ce sont autant de démarches qu'on peut aussi appliquer dans un établissement scolaire, comme vient de le montrer l'école de Vénissieux.
Alors les élèves nous ont donné leur premier retour en fait de cet investissement personnel. Ils nous ont dit qu'il y avait à peu près les deux tiers déjà des petits conflits entre guillemets, parce que bon à cet âge-là c'est relativement assez simple et assez voilà. Et donc ils nous ont dit que finalement les deux tiers des conflits déjà étaient commençaient à être résolus par justement ces élèves et que de plus en plus justement ces jeunes médiateurs en herbe arrivaient à s'interposer entre les différentes batailles, entre les différentes disputes. Et voilà, donc c'est très moderne. Voilà.
Du coup, vous avez beaucoup plus l'habitude d'agir dans des entreprises. C'est beaucoup plus votre secteur d'activité aujourd'hui.
Alors en fait, Lyon Médiation travaille dans tous les domaines. En fait, on fait de la médiation familiale. La médiation familiale, c'est quoi ? C'est par exemple dans les divorces, pour les séparations aussi en union libre aussi, parce qu'il faut organiser bien souvent une séparation dans les meilleures conditions. Le médiateur aussi, il aide aux négociations dans les couples par rapport aux gardes alternées, qui est bien souvent très conflictuelle. Et malheureusement, j'ai envie de dire, alors la garde alternée peut être négociée soit avant la séparation, ce qui est en général préférable, hein, ou alors après, malheureusement, si ça n'a pas été assez bien fait au début, on peut toujours effectuer une médiation après, rediscuter, que ce soit par rapport à par exemple, à un travail qui évolue d'une des deux personnes, etc. Et donc renégocier de manière calme et apaisée, et ensuite, pourquoi pas, le faire homologuer devant un juge par la suite. Il y a aussi les relations entre les parents, les enfants et aussi bien souvent maintenant les grands-parents qui nous contactent pour avoir un droit de visite entre guillemets pour les petits-enfants parce que malheureusement ça se passe pas toujours très bien avec les grands-parents et c'est aussi des fois un sujet de médiation.
Donc finalement la médiation peut s'appliquer dans tous les domaines de la vie quotidienne.
Voilà.
Et j'allais dire concrètement quel est votre rôle ou en tout cas comment ça se passe une médiation ?
Alors la médiation, elle se passe en plusieurs étapes. Tout d'abord, il y a un entretien individuel avec chacune des parties et ensuite une réunion commune où j'aide les personnes à trouver la meilleure issue possible par rapport à leur relation.
Et du coup, il vous faut quel type de compétences ou en tout cas, vous êtes à la fois psychologue et à la fois, voilà, quel est votre rôle ? Qu'est-ce que vous faites ?
Alors on me pose souvent la question. Comme je l'ai dit, en fait, on est des spécialistes de la relation. Il y a des mécanismes, il faut savoir qu'il y a des mécanismes qui nous entraînent dans une situation conflictuelle, et il y a aussi des mécanismes concrets qui vous permettent d'en sortir. Voilà, et ça c'est notre rôle aussi d'aller chercher quelle est la réelle source du conflit, parce que bien souvent c'est pas la première causalité qui est affichée. Mais voilà, notre rôle c'est justement de désamorcer cette relation et ensuite de leur faire trouver une issue favorable.
Aujourd'hui, comment les gens font-ils appel à vous ? On a l'impression que la médiation c'est un milieu, un secteur qui est assez peu connu du grand public. Est-ce que ce sont les juges qui vous mandatent ou est-ce que ce sont finalement ceux qui sont en difficulté qui font directement appel à vous ?
Oui, on peut se poser la question. En fait, ça peut être les deux. Ça peut être soit le juge, soit les parties qui nous contactent directement. Bien souvent, c'est les parties qui nous contactent directement. Et après, propose au juge la solution. Attention, j'attire l'attention sur le fait que à partir du moment, notamment par rapport à un divorce où il y a un juge qui a été nommé sur le divorce, on ne peut plus intervenir sans l'accord du juge. Mais bon, que ce soit avant le divorce ou pendant, vous pouvez à tout moment soit demander à un médiateur, soit demander au juge de faire intervenir un médiateur. Voilà.
Alors, puisqu'on parle de juge, quelle est, j'imagine que cette question aussi, on vous la pose souvent, là où les grandes différences, j'imagine qu'il y en a plusieurs, entre un médiateur et un avocat.
Alors, il faut savoir que le médiateur et l'avocat, ce sont deux professions et deux savoir-faire différents, bien que ces deux professions et ces deux métiers soient totalement complémentaires. Voilà. Alors, très concrètement, hein, pour construire et trouver la meilleure issue possible, donc contacter un médiateur. Et si par la suite, après, vous avez besoin d'encadrer juridiquement cet accord, il faudra contacter un avocat, qui est un professionnel du droit, donc c'est normal que ce soit lui qui encadre juridiquement. Voilà.
Mais quels sont les atouts d'une médiation ? Pourquoi passer par une médiation d'abord ?
Alors tout d'abord, la médiation permet d'alléger considérablement le poids émotionnel des personnes en situation conflictuelle, hein, même si bien souvent au début, on a tendance à sous-estimer cet aspect-là. Notamment dans le domaine familial, lors d'une séparation, les enfants sont les premiers touchés par cette souffrance et venir en médiation, c'est donc limiter son impact. Ensuite, il y a un deuxième point, il y a la rapidité qui est quand même inégalé par rapport à la situation conflictuelle. Hein. Une médiation, ça prend un mois tout au plus, hein. Ça arrange bien souvent bien moins d'un mois. Et quelques mois de plus si vous êtes en divorce et que vous devez faire homologuer devant un juge votre séparation. Mais sinon, en intervention pure de médiation, c'est très souvent moins d'un mois pour trouver une issue. Contrairement à, par exemple, un divorce conflictuel avec des procédures d'appel qui peuvent durer plusieurs mois facilement. Plusieurs années, pardon, facilement. Ensuite, vous avez une économie financière non négligeable, puisque la médiation permet bien souvent de diviser par deux votre facture au niveau de la séparation, même si c'est un aspect autre que humain, mais c'est quand même, pour les personnes qui ont des difficultés de plus en plus, c'est quand même non négligeable. Il faut savoir que, par exemple, pour le domaine familial, avoir un accord finalisé en médiation, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir deux avocats derrière. Et donc, vous allez pouvoir formaliser très simplement cet accord de manière juridique et le transférer très rapidement devant un juge. Voilà. Et enfin, et aussi pour la partie financière côté entreprise, vous avez aussi la situation conflictuelle qui ne bloque plus l'entreprise déjà. Vous avez l'absentéisme qui a quand même un coût dans l'entreprise. Et aussi la possibilité de ne pas se séparer de bons éléments dans l'entreprise, qui a aussi un coût non seulement pendant le conflit, mais aussi après, de trouver une personne qualifiée, de la former, etc. Donc voilà.
Vous parlez de l'entreprise, vous pouvez agir, j'allais dire, en amont des conflits aussi, c'est quelque chose qui est possible, ou finalement, est-ce qu'on doit faire appel à vous quand on a un vrai conflit avec un salarié, ou est-ce que vous pouvez avoir un rôle concret avant même que les conflits apparaissent ?
Oui, oui, tout à fait. Alors bien souvent, malheureusement, on m'appelle quand il y a le feu relationnel, j'ai envie de dire, dans l'entreprise. Mais c'est ce qu'on essaie d'initier justement aux entreprises où nous sommes déjà intervenus pour que ça se reproduise plus. Et aussi pour anticiper, pour motiver, etc. Je vais juste dire que les missions du médiateur dans l'entreprise, c'est quoi ? C'est tout d'abord anticiper, comme je viens de vous le dire, les situations conflictuelles. Ensuite, les résoudre le plus rapidement possible et de manière apaisée. Ensuite, faire partager une même dynamique et une motivation commune dans l'entreprise. Et enfin, instaurer un bien-être relationnel. Il faut savoir aussi qu'une partie de cette dynamique est une obligation légale aussi pour l'employeur. vous avez le code du travail, l'article 4121-1 du code du travail, qui dit que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs. Donc dans l'article, il y avait encore plus de points, mais voilà, c'est quand même une obligation légale et j'ai envie de dire, c'est bien plus que légal, c'est investir dans l'humain, c'est investir aussi dans les valeurs de l'entreprise. Juste, j'ai quelques chiffres de plusieurs études par rapport à la qualité relationnelle en entreprise. Hein. Un salarié heureux dans une entreprise est 2 fois moins malade, pour vous donner un ordre d'idée, et 6 fois moins absent dans son entreprise. Il reste 5 fois plus longtemps dans son travail, il est 31% plus productif. Il est 55% plus créatif et 9 fois plus loyal pour son entreprise. Donc c'est quand même des valeurs pour l'entreprise intéressantes et aussi pour le salarié, bien en premier pour le salarié et aussi quand même. Mais je pense que c'est quand même un investissement dans les deux sens qui est du gagnant-gagnant.
Et finalement, comment ça se passe quand vous intervenez en amont? Quels sont les points de blocage peut-être que vous pouvez, j'allais dire prévoir, mais qui en tout cas sont assez récurrents et sur lesquels vous pouvez intervenir en amont?
Bien souvent dans l'entreprise, il y a un problème de communication. Il y a un problème de communication et un manque d'outils dans cette entreprise pour pouvoir avoir un impact significatif rapidement par rapport à une petite situation qui commence à glisser en fait. Il n'y a pas de processus ni de partenaire extérieur neutre, impartial, indépendant, parce que c'est aussi nos valeurs hein, en tant que médiateur. C'est une neutralité, impartialité et indépendance. Voilà, donc si vous voulez, on n'a pas la même vision ni le même impact dans l'entreprise par rapport à un DRH, etc. Alors, il y a des informations qu'on pourra récolter et conseiller après l'entreprise par rapport à des diagnostics qu'on peut faire dans l'entreprise de manière préventive. Voilà, donc c'est tout un diagnostic préventif, c'est une anticipation et des outils justement à donner aux salariés de l'entreprise directement s'ils en ont besoin.
Quelles sont les clés d'une bonne médiation? En question très large, j'imagine, mais peut-être en fonction même des secteurs, dans le milieu scolaire, professionnel ou familial, quelles sont les clés, les points fondamentaux pour une bonne médiation?
Alors pour qu'une médiation puisse aboutir, il faut déjà avoir confiance qu'elle va réussir. Bien souvent, mais c'est notre rôle en fait d'épauler justement les personnes dans cette démarche-là. Oui. Même si vous n'arrivez pas à trouver de solution, votre médiation va réussir. Parce que les deux personnes sont là, elles veulent trouver une solution et nous sommes là pour les aider dans cette démarche-là. Bien entendu, la médiation est toujours une démarche volontaire et non contraignante. Donc on ne peut pas forcer une personne à venir en médiation. Il faut que les deux personnes soient volontaires et qu'elles ont envie de participer à cette médiation.
C'est vraiment le point principal. Finalement, quel que soit le domaine, il faut avoir envie de continuer ensemble, presque.
C'est la bonne volonté des parties, oui, tout à fait. Oui, c'est la bonne volonté des parties.
Alors, depuis le 1er janvier 2016, tous les consommateurs peuvent faire appel gratuitement à un médiateur pour leur litige de la consommation. Comment ça se passe?
Alors, en effet, depuis le 1er janvier 2016, il y a eu une ordonnance et un décret qui a été paru en août et octobre 2015, qui en est une application d'une réforme européenne. Et qui impose à tous les professionnels, alors hors ceux du secteur public et de santé, donc à tous les professionnels qui vendent des prestations et des biens à des consommateurs, de proposer à leurs consommateurs, justement, en cas de litige, une médiation. Donc pour cela, concrètement, ils doivent communiquer clairement aux consommateurs avant tout litige. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le médiateur référent chez qui le professionnel est inscrit doit être mentionné dans les conditions générales de vente, dans le contrat, sur le site internet, enfin après peut-être pas partout, mais quelque part, pour que le cas échéant, le consommateur, en cas de nécessité, puisse contacter le médiateur référent.
Et donc tout ça, c'est une démarche qui est gratuite?
Tout à fait, c'est même quelque chose qui est réglementé, hein. C'est dans l'ordonnance et le décret, c'est à la charge du professionnel. Alors après, bien entendu, c'est une démarche volontaire et non contraignante, encore une fois. À chaque fois où on parle médiation, c'est une démarche volontaire, que ce soit pour une partie ou pour l'autre. On ne pourra jamais imposer ni aux professionnels ni aux consommateurs une médiation. C'est vraiment une démarche volontaire et ça permet dans 80% des cas de résoudre les situations, les petites situations conflictuelles et bien souvent de ne pas engorger les tribunaux pour rien.
Parce que généralement c'est un problème souvent de communication, c'est souvent ça qui génère un conflit.
Oui, enfin, c'est toujours un problème humain quelque part. Hein. Oui, il m'a répondu comme ça. Moi, je voulais faire ça, et etc. Ça part sur quelque chose de factuel, mais après, si vous voulez, comme bien souvent dans toutes les situations conflictuelles, après, il y a les relations qui sont, il y a une surenchère bien souvent dans la relation. Et ils ont besoin d'une personne et d'un professionnel extérieur pour justement les aider et avoir une attitude indépendante par rapport à leur situation.
Et finalement, quels conseils peut-on donner aux personnes qui sont parfois en situation conflictuelle ?
Alors bien souvent, les personnes qui sont dans une situation conflictuelle sont désemparées et ne savent pas quoi faire. Le premier conseil que j'ai envie de leur donner, c'est votre situation n'est pas une fatalité. Ne subissez plus votre situation, agissez pour trouver une solution. Il y a un mécanisme psychologique classique qui est de ressasser constamment en boucle votre situation et d'en déduire que finalement il n'y a pas de solution ni pour vous ni pour l'autre personne. Je peux vous assurer que si les deux parties souhaitent trouver une issue à l'amiable, cette solution existe. Mais faites-vous aider en fait. Voilà. Ensuite, troisième point qu'on pourrait conseiller, c'est de ne pas chercher forcément à vous rassurer dans cette situation avec des professionnels qui, selon vous, sont les plus agressifs pour attaquer l'autre personne. C'est un très mauvais calcul en termes de temps, de coûts et surtout de bien-être personnel. Vous aurez très rapidement envie de passer à autre chose, ce qui ne sera pas possible si vous vous lancez dans un affrontement ouvert et incertain. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont complètement épuisées de leur situation conflictuelle qui n'en finit pas, donc ne tombez pas dans ce piège classique. Voilà. Et enfin, le dernier point que je pourrais donner, c'est même si je comprends totalement si c'est difficile de prendre finalement du recul par rapport à une situation conflictuelle qui nous touche et qui nous blesse personnellement, c'est même pour ça qu'on fait appel à un médiateur, il faut comprendre que l'adversité engendre l'adversité. Et celle-ci vous coûtera toujours plus cher en termes de souffrance, de temps et d'argent. Au début d'un affrontement ouvert, il faut avoir conscience que ni vous, ni l'autre personne ne pourra garantir l'issue. La seule personne qui décidera de votre situation si vous êtes resté dans ce conflit ouvert, ce sera le juge, en fait, qui n'aura pas autant de temps que vous dans une médiation. Il faut bien en avoir la certitude. C'est normal, il a beaucoup de dossiers aussi à gérer et c'est pas la même démarche. Voilà. Aujourd'hui, la médiation, justement, donc, vous permet de reprendre le contrôle sur votre situation et de contribuer à une issue que vous aurez construite. Une issue qui sera donc plus pérenne puisque vous aurez participé à son élaboration.
Et finalement, et ce sera ma dernière question, comment est-ce qu'on fait pour faire appel à un médiateur, à un vrai médiateur ?
Oui, alors vous faites bien de poser la question. Alors c'est quand même une profession, si vous voulez, qui est en train de se mettre en place. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de rechercher quand même un médiateur qui a pignon sur rue, quelque part, par rapport à cette profession, par rapport à son engagement, etc., par rapport aux différents domaines où il est impliqué. Nous, par exemple, à Lyon Médiation, on fait tous les domaines. Après, cherchez peut-être sur Internet, sur d'autres sites, si vous le souhaitez. Nous ne sommes pas une profession avec des tarifs réglementés comme pourrait l'être peut-être certaines professions juridiques. Donc, renseignez-vous. De toute manière, en général, si vous tombez correctement, ça vous coûtera toujours moins cher de faire une médiation que de faire un contentieux juridique. Et voilà.
Eh bien, merci beaucoup Bruno Végélin. Rappelle donc que vous êtes responsable du cabinet Lyon Médiation à Lyon, assez logiquement, et donc président du collectif de médiation de médiateurs Tierce Média.
Merci à vous.